VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est midi à Libreville au Gabon. Deux hommes sont morts dans la nuit de jeudi à vendredi dans un quartier de la capitale gabonaise à la suite d'affrontements avec les forces de sécurité. La première victime est un étudiant en droit de 27 ans. D'après l'AFP, il est décédé des suites d'une blessure par balle à l'abdomen après son hospitalisation. Et dans le quartier Nzengayong, le corps d'un homme né en 1986 était emmené ce matin en procession par des dizaines de manifestants enroulés dans le drapeau gabonais. Le jeune homme a été tué par balle alors qu'il était assis devant chez lui jeudi soir, d'après une femme se présentant comme sa mère. Sa nouvelle victime porte à 5 le nombre de personnes mortes dans les manifestations et émeutes qui ont éclaté mercredi au Gabon après l'annonce de la réélection du président sortant Ali Bongo face à l'opposant Jean Ping qui conteste le résultat de la présidentielle. Ouvert le jeudi 1er septembre à Kinshasa, les travaux du dialogue politique en RDC vont se poursuivre ce week-end et devraient durer 15 jours. Hier, dans son discours, le facilitateur togolais Edem Kodjo a récusé par une bonne partie de l'opposition à rappeler sa neutralité et l'opposant Vital Kamerhe, désigné co-modérateur, a rappelé la nécessité pour toutes les forces politiques du pays de participer à ces assises. Reportage complet de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
C'est un discours suivi avec attention par l'assistance que le facilitateur Edem Kodjo a prononcé à l'ouverture des travaux proprement dits du dialogue national. L'ancien premier ministre togolais a rappelé l'héritage laissé par Patrice Emery Lumumba à sa famille pour interpeller le Congolais à participer au développement. Accusé par le rassemblement de vrai pour la majorité présidentielle, Edem Kodjo a tenu à clarifier sa neutralité, insistant qu'il n'est pas venu à RDC pour défendre un individu ou une famille politique.
Je ne suis pas venu ici embrasser en particulier la cause de X ou de Y. Je ne suis pas venu ici pour me mettre à la disposition de causes partisanes. Je suis venu ici pour servir le Congo et pour servir l'Afrique. C'est la raison pour laquelle, très tôt dès ma nomination, je me suis lancé sans retenue dans le travail qui est celui du facilitateur.
Pendant que les rassemblements de l'opposant Étienne Tshisekedi et président du comité des sages boycottent ce forum, le leader de l'Union pour la Nation Congolaise, Vital Kamerhe, était présent à l'ouverture du dialogue, à côté notamment de Sami Badibanga, président du groupe parlementaire UDPS et allié. Choisi comme modérateur du dialogue et chef de délégation de l'opposition, Vital Kamerhe a lancé un appel aux absents au dialogue à rejoindre le forum. Le président de l'UNC a inscrit ces dialogues dans l'esprit de la résolution 2277 du Conseil de sécurité de l'ONU.
C'est le parti qui a dit non au dialogue, il n'y en a pas. Qui c'est qui a dit, tout le monde a dit oui au dialogue. Mais le dialogue prévu par la résolution 2277. Au sein de l'opposition, dites-moi un seul parti qui a dit que le président Kabila doit continuer après son mandat. Aucun parti. Au sein de l'opposition, est-ce qu'il y a un parti qui a dit que nous allons aller aux élections sans que nous remplissions les conditions pour ces élections? Mais pourquoi on a prévu le dialogue? C'est parce que nous avons alerté l'opinion internationale depuis très longtemps qu'il y a des tergiversations qui vont retarder le processus électoral.
Du côté de la majorité présidentielle, on estime que ces assises vont baliser le chemin pour de bonnes élections. Henri Movasakani est secrétaire général du PPRD, première force politique de la majorité présidentielle.
Préparons mieux l'élection afin qu'elle participe à faire une embellie qui continue, plutôt que de faire en sorte que l'élection soit une occasion de chute ou de retour en arrière par rapport à énormément d'acquis que nous avons, notamment la paix et la croissance économique et bien d'autres choses que vous constatez dans la gestion actuelle. Mais c'est tout simplement le fait que chaque mandat est remis en selle parce que le pouvoir appartient au peuple, qui en accorde l'exercice pendant un temps limité à un homme ou à un groupe d'hommes. Et donc, à chaque fois que vous reviendrez devant la population, vous êtes en situation d'alternance. Ça peut être vous-même, ça peut être le même groupe qui gagne, ça peut être le groupe d'en face. Et donc, c'est les jeux démocratiques.
Il faut noter que la journée de vendredi est consacrée à l'harmonisation des listes, notamment pour la composante société civile, et les travaux vont reprendre ce samedi. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En Somalie, les États-Unis ont identifié Abdul Kadi Mounim comme étant le chef de l'organisation État islamique en Afrique de l'Est. Moumin est né dans la région semi-autonome du Puntland, dans le nord-est de la Somalie, à une date indéterminée et a vécu en Angleterre. et en Suède. Selon le département d'État américain, Mounim a récemment augmenté la taille de son groupuscule en kidnappant de jeunes garçons âgés de 10 et 15 ans qu'il endoctrine et oblige à mener des activités militantes. Mais le groupe de Mounim demeure très réduit et isolé dans les montagnes Golis, ce qui lui a vraisemblablement permis d'échapper jusqu'à présent aux représailles de l'AMNIA, la branche de renseignement des Chebab, chargée entre autres de tuer dans l'œuf toute velléité d'implantation de l'État islamique en Somalie. Polémique au Niger à propos de la cession d'importants lopins de terre dans la région de Diffa à une société saoudienne. Alors que les élus locaux ont donné leur aval, le gouvernement temporise et des organisations de la société civile crient à l'accaparement des terres agricoles. Les précisions avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
La société saoudienne Al Hurech est intéressée par 120 000 hectares. Meirou Malam Ligari, président du conseil régional de Diffa.
Nous apportons la richesse pour que cette population ne soit plus pauvre de ses potentialités. Parce qu'aujourd'hui, elle est pauvre de ses potentialités, qu'elle n'exploite pas.
Pour l'instant, selon des sources, le gouvernement a demandé aux deux parties de sursoir à une quelconque signature pour matérialiser le projet. Un collectif d'organisations de la société civile demande aux autorités nigériennes d'aller plus loin en faisant simplement arrêter le processus. Moussa Tiangari, secrétaire général de l'association Alternative Espace Citoyen, une de ces organisations.
Ça va impacter les activités que les gens font, à savoir donc l'élevage qui est une des activités phares de la région. Donc les gens vont manquer d'espace. Au fond, c'est un projet fou.
Le collectif d'organisations de la société civile appelle alors à une grande vigilance contre l'accaparement des terres agricoles par des investisseurs étrangers. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Les autorités turques ont suspendu de leurs fonctions 8 000 membres de services de sécurité et plus de 2 000 enseignants qui viennent s'ajouter aux milliers de suspensions déjà décidées, annonce aujourd'hui le journal officiel. Depuis la tentative de coup d'État de la Mejie, près de 80 000 personnes ont été révoquées dans la fonction publique turque et des milliers ont été arrêtés pour leur lien supposé avec les putschistes. Parmi les membres des services de sécurité dont la suspension a été annoncée, 323 appartiennent à la gendarmerie, les autres étant des policiers. Près de 2400 enseignants ont par ailleurs perdu leur poste dans les universités. Deux attentats ont secoué aujourd'hui, ce matin, le nord-ouest du Pakistan. Au moins 11 personnes ont été tuées et 40 blessées dans une nouvelle attaque visant la justice pakistanaise menée par un kamikaze contre un tribunal de la ville de Mardan. L'assaillant a tiré pour forcer l'entrée du tribunal, puis lancer des grenades avant de déclencher sa veste explosive au milieu de la foule présente. Le kamikaze avait au moins 8 kg d'explosifs dans sa veste. Cette attaque n'a pas été revendiquée pour le moment. L'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff, destituée par le Sénat, a contre-attaqué et fait appel auprès de la Cour suprême pour demander un nouveau procès et l'annulation de la sentence historique qui l'a écartée du pouvoir au terme d'une procédure hautement controversée. Son avocat et ex-ministre de la Justice, José Eduardo Cardoso, qui l'a défendu fermement depuis le début de la procédure, a exigé auprès du tribunal suprême fédéral la suspension immédiate de la décision du Sénat qui a condamné pour crime de responsabilité la présidente de la République. Il a également réclamé un nouveau procès et le retour à un poste de président par intérim de Michel Temer, l'ancien vice-président de Mme Rousseff, devenu mercredi le nouveau dirigeant du Brésil.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici aux États-Unis, l'ouragan Hermine a touché terre en Floride au petit matin aujourd'hui, provoquant des inondations potentiellement meurtrières selon les autorités américaines et des coupures de courant dans des dizaines de milliers de foyers. L'ouragan est arrivé aux premières heures ce vendredi près de Saint-Marc au sud de la capitale de la Floride, Tallahassee, avec des vents de 130 km/h selon le Centre américain de surveillance des ouragans. Et Barack Obama a effectué hier une escale peu commune au beau milieu de l'océan Pacifique, au cœur de la plus grande réserve marine du monde, dont il a pu découvrir les richesses avec masque et tuba. M. Obama, qui a érigé le climat au rang de priorité de ses deux mandats, entend profiter de ce déplacement soigneusement chorégraphié pour réaffirmer l'urgence d'agir face au réchauffement climatique de la planète. Jean-Roger Billon à ce micro. Le prochain journal, c'est dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Pour ma part, je vous dis simplement bon après-midi et puis bon week-end. On se retrouve en début de semaine prochaine.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Pour la France des couleurs.